Alléluia. Alléluia. Éternel Dieu, je te bénis, je te rends grâce ce matin. C'est par ton amour que nous sommes là, Seigneur, c'est par ta fidélité. Car sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. C'est toi qui maintiens en nous chaque jour le souffle de vie. Et si nous vivons, Seigneur de gloire, nous voulons le faire pour accomplir ta volonté, Seigneur. Tu vois au-dedans de nous, Seigneur Dieu de gloire, tout ce qui nous éloigne de toi. Tu vois au-dedans de nous tout ce qui nous empêche, Seigneur, de saisir ta grâce, de saisir ta souveraineté, de te laisser régner totalement en nous, Seigneur. Et nous sommes là ce matin, Seigneur de gloire, parce que nous voulons nous humilier devant toi et te dire que nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ton Esprit Saint. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être instruits par ta parole, Seigneur de gloire, qui est la vérité. Seigneur, nous croyons que tu donnes la nourriture au temps convenable, Seigneur. Et nous croyons que ce matin encore, tu as pourvu, Seigneur Dieu de gloire, à nous donner la nourriture, Seigneur de gloire, qu'il conviendra, Seigneur, pour aujourd'hui, pour demain et pour les temps à venir, Seigneur. Seigneur, dispose nos cœurs à nous humilier devant toi. Regarde, Seigneur de gloire, l'orgueil au-dedans de nous, l'incrédulité, le raisonnement. Seigneur, tous ces sentiments, ces forteresses qui nous empêchent de nous humilier et de saisir ta parole. Seigneur, ce matin, nous voulons être comme des enfants devant toi. Accorde-nous l'intelligence, Seigneur, de comprendre les Écritures. Donne-nous la sagesse, Seigneur Dieu de gloire, pour te craindre encore ce matin, Seigneur, afin que ta volonté soit parfaite en nous. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce, car tu as dit dans ta parole que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Et ce matin, nous venons à toi avec assurance, parce que nous croyons que tu es amour. Nous croyons que tu pardonnes, nous croyons, Seigneur Dieu de gloire, que tu veux sauver encore aujourd'hui, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Que la gloire te soit rendue à toi seul, dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons parler d'un thème principal ce matin, principal par rapport aux Écritures. C'est la raison pour laquelle le Seigneur est venu sur terre, sinon il ne le serait pas. Nous savons que le Seigneur n'est pas venu pour que les gens roulent dans des Mercedes ou bien dans des Rolls-Royce. Le Seigneur n'est pas venu parce que tout allait bien sur terre. Si tout allait bien, il ne serait pas venu. Il est venu parce qu'il y avait un problème. C'était la question du péché. Et on ne peut pas aujourd'hui vivre une vie chrétienne sans avoir la notion que le péché est finalement ce qui nous détruit et ce qui nous éloigne du Seigneur. On peut prêcher aujourd'hui qu'on va être riche, qu'on sera la tête, non la queue, que la vie sera rose. Mais ça, ce n'est pas la vérité de l'Évangile. Le Seigneur Jésus n'est jamais venu annoncer ces choses-là. Et surtout, il n'est pas venu mourir pour ça. S'il est mort, c'est parce que nous étions dans un problème, dans le problème du péché. Et il fallait qu'il laisse sa vie en rançon pour nous sauver, pour nous délivrer, et bien, tout simplement de la mort. De la mort qui est conditionnée par le péché. Et s'il y a différents péchés que nous pouvons connaître en tant qu'être humain, on peut parler de vol, on peut parler de violence et ainsi de suite, il y a des péchés particuliers, des péchés dont les conséquences spirituelles sont quelquefois beaucoup plus graves. On voit notamment dans le livre d'Éphésiens, lorsque le Seigneur parle de la colère, il dit que lorsque vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc, on nous explique par là que la conséquence de la colère, lorsque on consomme cela, peut emmener des dégâts très graves. On ne va pas forcément nous dire que si tu voles, voilà quelles seront les conséquences. Mais il y a quelques péchés que la Bible souligne d'une manière particulière. Et l'un des péchés que nous voulons souligner d'une manière particulière aujourd'hui, c'est le mensonge. Et nous allons voir que le mensonge est un péché finalement qu'on retrouve associé à toute forme de péché qui peut exister. Et on va se rendre compte aussi que le mensonge n'est pas forcément lié au fait de ne pas dire la vérité. Aujourd'hui, nous pouvons nous exprimer tel que je l'ai fait là, vous m'entendez clairement. Mais les gens qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer, c'est-à-dire qui sont muets, ils ont aussi une forme de langage qui est différente du parler. Il y a des personnes aussi qui ne peuvent pas s'exprimer, peut-être comme les muets, mais qui peuvent aussi s'exprimer d'une façon corporelle. Et ça aussi, c'est une forme de langage. Et donc, le mensonge ne va pas se limiter tout simplement à la parole, mais va aussi jusqu'à l'attitude. Par notre attitude, on peut être dans le mensonge. Lorsqu'on veut paraître pour ce que nous ne sommes pas, c'est aussi une forme de mensonge. Et on va se rendre compte que finalement, le mensonge est beaucoup plus profond que le simple fait de ne pas avoir dit la vérité de sa bouche. Notre vie entière peut aussi être un mensonge. On peut bâtir notre vie sur des réalités qui sont propres à nous-mêmes, mais qui ne reflètent pas les réalités attendues de Dieu, les réalités voulues de Dieu, mais des réalités fondées de toutes pièces, mais qui, un jour ou l'autre, seront dévoilées. Donc le but de ce message, c'est de nous ramener à la raison, de nous amener à sortir définitivement du mensonge et de nous expliquer que le mensonge ne paye pas. Comme toute forme de péché, on peut vivre une illusion pendant un temps. Tu peux voler et croire que la chose que tu as volée t'appartient. Tu marches avec, les gens te respectent à cause de ce que tu as, mais un jour la justice te rattrapera et te rappellera que ce que tu avais volé, l'escroquerie que tu avais faite il y a 20 ans, on va te ramener 20 ans en arrière pour te dire que ce n'était pas à toi. Mais pendant ces 20 ans-là, tu as vécu comme si c'était à toi. Tu as profité de ces choses-là, mais c'était un mensonge. Le détournement que tu peux faire en ne déclarant pas les impôts comme il faut. Et tu vis avec ce que tu as en te disant « je suis ». Mais un jour, les autorités te rattraperont et te diront « l'argent avec lequel tu avais fait tel ou tel projet, c'était l'argent de l'État. Tu dois le rendre maintenant. » Donc, tout ce temps-là, tu as semblé vivre, mais tu vivais sous un mensonge. Même si dans ta bouche, tu ne mentais pas ouvertement aux gens, mais cette tromperie-là, finalement, était une forme de mensonge, était un mensonge qui te rattrapera un jour. Et nous allons finir par expliquer que finalement, même si toute ta vie, tu as réussi à tromper les hommes, toute ta vie, tu as réussi à te faire passer pour ce que tu n'es pas, ben un jour, tu seras face à Dieu, qui lui connaît toutes choses, et qui te rappellera que le mensonge t'a fait vivre dans une illusion, qui t'a fait plaisir pendant 90 ans peut-être, 120 ans si Dieu te fait grâce de vivre jusque-là. Mais la réalité, c'est que lorsque tu seras face à Dieu, il te rappellera que le mensonge ne paye pas, parce que la voie du mensonge mène en enfer. En lisant le dictionnaire, voilà la définition qu'on nous dit. Le mensonge est une tromperie, une forme de manipulation qui vise à faire croire ou à faire faire à l'autre ce qu'il n'aurait pas cru ou fait s'il avait su la vérité. En finalité, le mensonge s'oppose à la vérité, à la sincérité. Donc le mensonge, c'est une tromperie. C'est faire croire à quelqu'un le contraire de ce qui est la réalité. Une personne qui peut être aveugle, tu lui dis non, le ciel est rouge. Donc tu dis quelque chose pour l'emmener à s'imaginer finalement le contraire de la vérité. Et bien souvent dans le mensonge, il y a des objectifs derrière. C'est pour parvenir à des fins. C'est pourquoi dans la définition que nous lisons, il est écrit « et c'est qu'une manipulation » qui pousse à faire faire quelque chose à quelqu'un qu'il n'aurait pas fait s'il avait connu la vérité. Donc, dans le mensonge, il y a la notion de manipuler, c'est-à-dire de détourner les choses pour arriver à nos objectifs personnels. Si on sent que par les voies de la vérité, on n'y arrive pas, on va tout simplement manipuler la vérité pour obtenir ce que nous attendons. C'est comme ça que certains manipulent leur CV. Ils mettent sur leur CV ce qui ne correspond pas en réalité à leur propre expérience, pour parvenir à débaucher l'emploi. Donc, ils sont prêts à tordre la vérité, à manipuler les choses pour détourner la vérité finalement et parvenir à leur fin. Donc, il y a un but égoïste qui est d'être gagnant à la fin et la volonté de tromper, voilà, de faire croire que les choses sont ainsi alors que les choses sont totalement différentes. Et comme je le disais, ça peut être par la façon de parler, mais ça peut être aussi par la façon de vivre. Vous allez voir des personnes vouloir vivre, parler comme des personnes qui sont riches. Mais lorsque tu vas chez la personne, tu te rends compte que même il compte les pièces et pour manger, c'est difficile. Et là, vous allez voir dans certains pays où les gens sont tellement accrochés à la mode qu'ils roulent non seulement avec des voitures de location, ils s'habillent comme si c'était un ministre, mais que finalement, lorsque tu fais l'enquête et que tu fouilles dans sa vie, tu vois que c'est un misérable et que le peu qu'il a, il veut se faire passer pour quelqu'un qui y est en faisant croire que moi j'ai telle relation, moi je connais un tel Mais il est dans la galère. Mais en apparence, il semble être riche. En apparence, il semble être fort, il semble avoir beaucoup de relations. Mais lorsque tu vas fouiller dans la vie, tu te rends compte que c'est une personne qui est pauvre. C'est une personne qui n'a rien. Et ça, c'est une manipulation, donc de manipuler, l'opinion des gens pour parvenir à ses fins. Et il y a des personnes qui ont, par le mensonge, en s'inventant une vie, qui ont réussi, entre guillemets, à infiltrer certains milieux que vous et moi, on ne peut pas. Des milieux là où il y a des stars, ainsi de suite, en se faisant passer pour ceux qui n'étaient pas. Certains lui ont même fait confiance en confiant des choses. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont procès par rapport à ça. Il y a un grand Français qui était spécialiste, qui a fait des grandes escroqueries, aux États-Unis, en se faisant passer pour ce qu'il n'était pas. Mais pendant tout ce temps-là, où il profitait donc, il y avait le respect des gens, il se faisait une réputation, jusqu'au jour où on découvre que finalement, il n'était pas ce qu'il prétendait être. Et là, il se retrouve dans des problèmes. On a vu là dernièrement, quand il y a eu les attentats à Nice, un homme se faire passer pour l'avocat d'un terroriste. Voilà, donc il a voulu se faire passer pour l'avocat, mais quand on a su que ce n'était pas ça, là il menaçait même de se suicider. Donc, vouloir entrer dans une vie qui n'est pas la nôtre, nous emmènera un jour ou l'autre à le regretter. Le mensonge ne paye pas. Le mensonge te donne, un sursis. Ça te fait vivre dans une forme d'illusion. Tant que les autres semblent croire ce que tu es, tu te sens fort. Mais viendra un moment donné où les choses seront découvertes, et c'est là où tout va tomber à terre. Le mensonge ne paye pas. Nous lisons dans la définition que c'est la volonté de tromper. Et comme je le disais, par notre attitude, par notre comportement, on peut être dans le mensonge sans même avoir dit un mot. Nous lisons dans Matthieu chapitre 23. Matthieu 23 et ensuite nous irons dans Jean chapitre 8. Matthieu 23, au verset 1er. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit : Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Les scribes, c'était des gens intelligents de l'époque, notamment qui maîtrisaient tout ce qui était lié à l'écriture et à la retranscription des écritures saintes. Les pharisiens étaient un parti religieux, donc qui gérait un peu la vie religieuse de l'époque. Donc, c'était des personnes qui avaient une grande influence parmi le peuple et ils avaient une grande autorité. Ils étaient respectés. Et voilà le constat que le Seigneur va faire de leur vie. Je reprends, verset 2. « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » Ils lient les fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et dans les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne deux fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un dit vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande, qui est l'autel, il est engagé. Amen. Malheur à vous, scribes et pharisiens, et le Seigneur ajoute, hypocrites. Donc le Seigneur soulève l'hypocrisie. L'hypocrisie qui est liée au mensonge. L'hypocrisie qui est le fait de faire croire que nous sommes en apparence ce que nous démontrons, alors que dans la réalité, nous faisons tout le contraire. Et le terme même de hypocrite, étymologiquement, c'est porter un masque. Donc hypocrite veut dire celui qui porte un masque. Donc c'est ce qu'on utilisait autrefois dans les pièces de théâtre de l'époque. Donc on appelle ça hypocrite, le fait de porter un masque, c'est-à-dire de montrer une apparence qui en réalité n'est pas la nôtre. Et le Seigneur dit, voilà les scribes et les pharisiens. Ils enseignent des choses, ils disent des choses, mais ce n'est pas ce qu'ils font. Donc la vie qu'ils sont en train de démontrer, en réalité ce n'est pas ce qu'ils sont au-dedans d'eux. Ils aiment être présents dans les places publiques, porter des beaux vêtements, avec écrit des prières, avec des vêtements les franges, c'est-à-dire ce qui servait pour la prière. Ils portent toutes ces choses, donc par leur habillement, ils se font passer pour des gens pieux, alors que la réalité c'est qu'ils font l'inverse de tout ce que le Seigneur attend d'eux. Mais devant cette apparence-là, les gens s'humiliaient. C'est pourquoi dans Matthieu 6, le Seigneur dit, je vous le dis en vérité, en parlant à ce disciple, il dit que tous ces gens-là, ils ont déjà eu leur récompense. Le respect des gens, la peur que les gens avaient, le respect que les gens leur donnaient à cause de leurs vêtements, à cause de leur position dans la religion, faisait qu'ils tiraient de cela beaucoup d'avantages. Et le Seigneur dit, c'est ça leur récompense. Mais lorsque les gens les voyaient dans les rues, sur les places publiques, ils ne pouvaient pas imaginer tout ce que le Seigneur était en train de décrire là. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'ils étaient aussi loin en réalité de la vérité. Mais l'apparence qu'ils démontraient, sans même dire un mot, ne serait-ce que par le vêtement, était déjà un langage qui voulait faire croire aux gens que nous sommes des gens pieux. Nous sommes des gens consacrés à Dieu. Mais le Seigneur qui voyait plus loin que ça, qui voyait dans le cœur, a dénoncé leur acte. Donc on peut par notre vie, par notre manière de vivre, faire croire que nous sommes ce que nous sommes, mais en réalité, nous ne le sommes pas. Et bien que les hommes ne le voient pas, le Seigneur, lui, il le voit. Et ça, c'est le mensonge. Tu n'as pas besoin de dire le contraire de la vérité pour mentir, mais même ta vie peut être bâtie sur un mensonge. Même ta vie peut être bâtie sur un mensonge. Tes attitudes peuvent démontrer. Tu fais le fort, tu fais le costaud. Au lieu de venir t'humilier devant le Seigneur, au lieu de demander l'aide de la prière, tu fais comme si tout va bien. Tu fais comme si tout va bien. Comme si tu es fort. Alors que la réalité est tout autre. Comment le Seigneur peut intervenir? Lui, il regarde dans le cœur. Il voit clairement que même si tu n'exprimes pas les choses de ta bouche, mais tu fais semblant. Et c'est ça que le Seigneur condamne. C'est l'hypocrisie. Le Seigneur ne condamne pas la faiblesse que nous pouvons avoir de faire ce qu'il attend de nous. Il ne condamne pas les difficultés que nous pouvons avoir d'être toujours à 100% dans les Écritures. Ce qu'il condamne, c'est de faire semblant que tout va bien, alors que ça ne va pas. Ce qu'il condamne, c'est de faire semblant que nous sommes ce que nous voulons montrer aux gens, alors que Dieu sait que dans notre cœur, ce n'est pas ce que nous sommes. C'est ce que le Seigneur condamne. Et il dit à ces personnes-là, vous êtes des hypocrites. Vous dites aux gens de faire, mais vous-même, vous ne le faites pas. Et le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Ça, c'est le mensonge. Et qui est d'autant plus grave que nous lisons dans Jean 8, et nous allons comprendre pourquoi le Seigneur a parlé ainsi des scribes et des pharisiens. Et lorsque nous lisons ce passage de Matthieu 23, on peut voir, bien aimé, à travers toutes les différentes religions qui existent, là où l'uniforme fait même le grade. En fonction de la position que tu as, la robe change de couleur. Donc plus tu es en noir, donc tu es bas, quand ça devient un peu rouge, un peu des couleurs compliquées, donc on sent que tu es encore dans un certain niveau. Et toutes ces choses-là qui font croire que les gens sont pieux, que les gens sont saints parce qu'ils ont un vêtement, le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. La sainteté ne se juge pas aux vêtements, ça se juge au cœur. La Bible nous dit que Jésus-Christ est venu, il n'avait rien pour plaire. Il n'avait rien pour plaire, il est venu dans l'apparence des hommes, comme vous et moi. Il n'a pas voulu s'identifier ou se faire remarquer à partir du vêtement. Non, il s'est fait remarquer à partir de la Bible et à partir de la vérité. Dans Jean chapitre 8, il est écrit au verset 37. « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Si nous revenons dans le contexte, le Seigneur s'adressait encore à ces hommes-là, les scribes et les pharisiens. Si nous revenons un peu en avant, il explique cela. Donc là, il s'adresse aux scribes et aux pharisiens, les mêmes qu'il vient de décrire dans Matthieu 23. Verset 38. « Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. » Donc, il fait une différence. Il dit « Moi, je dis ce que j'ai entendu de mon père, mais vous, vous faites ce que vous avez entendu de votre père. » Donc, il montre par là, premièrement, que nous n'avons pas le même père. Bien que nous sommes du même peuple, mais nous n'avons pas le même père. Verset 39. Ils lui répondirent « Notre père, c'est Abraham. » Jésus leur dit « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Autrement dit, Abraham n'est pas votre père. Si vous dites irrévocablement que vous êtes descendant d'Abraham, mais vous ferez aussi comme lui. Donc votre père, ce n'est pas Abraham. Verset 40. « Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. » Il lui dit, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Là maintenant, ils disent, « C'est Dieu notre Père. » Le Seigneur dit encore, « Non, si réellement Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, puisque moi je suis aussi sorti de lui. Je suis aussi enfant de Dieu. » Donc forcément, on ne peut pas dire que j'aime telle personne, mais j'aime pas ses enfants. Ça serait une aberration de dire, ben écoute, j'aime bien le frère tel, mais ses enfants, je ne les aime pas. Donc c'est que forcément, tu ne l'aimes pas non plus. Parce que si tu aimais véritablement le père, tu aimerais aussi ses enfants. Verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Donc le Seigneur va finir par leur dire, vous dites qu'Abraham est votre père. Abraham n'est pas votre père. Parce que si Abraham était votre père, vous marcheriez aussi comme lui. Vous dites maintenant que Dieu est votre père. Dieu n'est pas non plus votre père. Puisque si Dieu était votre père, vous aimeriez aussi les autres enfants de Dieu. Et moi-même je descends de lui, donc vous m'aimeriez. Votre père, c'est qui? Il dit, c'est le diable. Pourquoi? Parce que le diable ment dès le commencement. Il est le père du mensonge. Je disais en introduction que la Bible dénonce beaucoup de péchés. Mais la Bible met l'accent sur certains péchés qui ont des conséquences et des caractéristiques particulières. Et là, on nous dit que le péché a été enfanté par le diable. Il dit, il est le père du mensonge. Donc le mensonge est vraiment quelque chose qui caractérise directement la nature du diable. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de mensonge, il n'y a aucune confusion à faire en se disant que c'est peut-être le père d'Abraham, le père de Dieu ou l'enfant de Dieu, l'enfant d'Abraham. Non ! Lorsqu'on parle du mensonge, il ne peut y avoir qu'un seul père. Donc il n'y a plus de confusion. Le Seigneur veut nous faire comprendre que le mensonge est quelque chose qui caractérise directement la nature du diable. Donc dès qu'on parle du mensonge, il y a directement la notion du diable qui est engagée. Donc quand on parle de mensonge, il n'y a même plus la question de faiblesse par rapport à la chair. C'est directement lié à la nature du diable. C'est une manière de nous dire, bien-aimés, que lorsque nous mentons, nous sommes tout simplement dans la même nature que le diable. Et c'est pourquoi toujours l'apôtre Jean, dans 1 Jean 3, il va dire que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pratiquer le péché. Mais il va dire par là que celui qui pratique le péché est du diable, parce que le diable pêche dès le commencement. Le diable pêche dès le commencement. Et il va très loin. Il dit que c'est de là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ça veut dire qu'il n'y a pas trois camps. Soit c'est la nature de Dieu qui est manifestée, soit c'est la nature du diable. Et l'expression qu'il dit là, que le diable ment dès le commencement, il le répète dans 1 Jean en disant que le diable pêche dès le commencement. Ça veut dire que dès le commencement, le diable a été caractérisé par le mensonge et par le péché. Donc le mensonge est quelque chose qui est grave aux yeux de Dieu, qui dénature même l'enfant de Dieu qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie. Le diable est le mensonge, est le père du mensonge, donc c'est lui qui a enfanté le mensonge. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, lorsque nous revenons dans Matthieu 23, et que ce sont les mêmes paroles aux mêmes personnes que le Seigneur s'adresse, on comprend que lorsque le Seigneur condamnait l'hypocrisie, il faisait le lien avec ce qu'il venait de dire là, que le diable est le père du mensonge. Et là, il s'adressait aux scribes et aux pharisiens pour dire « Vous avez pour père le diable. C'est le diable qui est votre père. » Et c'est la raison pour laquelle ils étaient dans l'hypocrisie. C'est la raison pour laquelle ils n'accomplissaient pas la loi de Moïse, parce qu'ils n'avaient pas pour père ni Dieu, ni même Abraham, mais bien la nature du diable qui était manifestée en eux. Le mensonge est quelque chose qui nous éloigne vraiment de la nature de Dieu. Nous pouvons manifester un semblant d'amour, parce que l'amour et le mensonge ne vont pas avec. On peut manifester un peu de bonté, on peut manifester une forme de patience, mais lorsque le mensonge est trouvé, ça vient effacer tout le reste. Ça vient enlever tout le reste. Et c'est ça qui va prendre le dessus. Parce que c'est ça qui est même l'identité du diable, c'est de mentir. Pourquoi le diable ment? Il a menti dès le commencement. Voyons comment il a détourné Adam et Ève. Nous avons expliqué dans la définition que le but du mensonge, c'était pour parvenir à des fins en usant de tromperie, en manipulant. Et c'est ce qu'il a fait en semant le doute, en manipulant ce que le Seigneur aurait pu dire à Ève. Mais Dieu a-t-il réellement dit? Donc il a amené le trouble, il a voulu la tromper pour emmener le doute dans sa vie et l'amener finalement à avoir des pensées différentes de celles que le Seigneur voulait. Et il a voulu les tromper. Et quand le Seigneur soulève ça, donc il veut dire encore par là que tous ces scribes et ces pharisiens, dans Matthieu 23, dans ce qu'ils font, c'est pour tromper les gens. Mais lorsqu'on trompe, c'est pour parvenir à des fins. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit encore que Dieu a dit en réalité, ils ont eu leur récompense. Parce que de leur tromperie, de leur hypocrisie, ils profitaient finalement du respect qu'ils avaient auprès du peuple. Donc ils ont utilisé et manipulé, comment dire, la vérité de Dieu pour en arriver à leur fin et à vivre une forme de vie, je dirais, d'opulence et de confort sur la terre. Et c'est ça qui a été leur récompense. Et comme je le dis souvent, bien-aimé, on ne récompense pas quelqu'un avant la course. Jamais nous avons vu avant le 100 mètres venir déjà donner la médaille au vainqueur. Non, pour être vainqueur, il faut d'abord courir. C'est seulement à la fin de la course qu'on donne la récompense. Donc lorsque tu rates même la course, tu arrives devant la télévision et tu vois ils sont déjà sur le podium. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la course est déjà jouée. Donc tu comprends toi-même, ah j'ai raté la course, puisqu'on est déjà en train de donner les médailles. Ça veut dire que la fin de la course a déjà été sifflée. Donc quand le Seigneur dit qu'ils ont eu leur récompense, c'est pour dire que leur course est déjà finie là. Leur récompense s'arrête là. Ils ont eu ce qu'ils ont voulu. Ils ont été récompensés par la gloire des hommes, par le respect des hommes, par l'argent. C'est ça qui a été leur récompense. Pourquoi? Parce que leur vie a été une vie d'hypocrite, une vie de mensonge. Même si de leur bouche, parce que quand le Seigneur parle dans Matthieu 23, qu'est-ce qu'il dit? Il dit aux gens, faites ce qu'ils disent. Ça veut dire que de leur bouche, ils disaient ce qui était propre à Moïse. Le Seigneur a dit, faites ce qu'ils disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Ils disent, mais ils ne font pas. Donc tu peux de ta bouche dire les choses comme en vérité, c'est-à-dire dire des choses vraies, mais vivre toi-même de façon totalement différente. Et le Seigneur considère que nous sommes dans le mensonge. Pourtant tu diras, oui, mais j'ai prêché la Bible. Tu as prêché la Bible, mais ta vie est dans le mensonge. Quand le Seigneur dit, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, beaucoup viendront et diront, mais on a chassé les démons en ton nom. Certains diront, Seigneur, mais on a prêché, les gens se sont convertis. On a prêché la Bible, on a dit la vérité. Vous avez dit la vérité de votre bouche, mais votre vie n'était pas celle qui était conforme à Dieu. Donc vous avez été dans l'hypocrisie. Et le Seigneur dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité, vous tous qui êtes injustes. Donc on peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Le diable est le père du mensonge, il ment dès le commencement. Nous prenons Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Il y a des raisons au mensonge, mais le mensonge, comme je le disais, ne peut pas cohabiter avec l'amour. Parce que forcément, lorsque l'on ment, on use de tromperie et de manipulation, c'est que forcément, d'autres personnes souffriront. Dans Genèse chapitre 12, au verset 10, « Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Abraham va avoir peur pour sa vie. Il va se retrouver en Égypte, qui est la nation la plus puissante du monde à cette époque-là, et il va avoir peur pour sa vie parce que sa femme était belle. Il dit à sa femme, on risque de me faire des problèmes à cause de toi. Donc, ne dis pas que tu es ma femme, dis que tu es ma sœur. Lorsque nous allons plus tard, plus loin dans les écrits, effectivement, Abraham va expliquer que Saraï était fille de son père. Donc, c'était sa demi-sœur, si on parle dans nos termes d'aujourd'hui. Donc, ce n'était pas quelque chose qui était faux directement. Puisqu'il y avait un lien qui était là, c'était effectivement la fille de son père. Mais l'intention d'Abraham n'était pas de dire la vérité pour la vérité. L'intention d'Abraham était de détourner, de manipuler pour sauver sa vie. Donc même avec une vérité partielle, l'intention n'était pas de dire la vérité, mais l'intention était de se préserver, de se sauver. Donc en quelque sorte, Abraham a menti. Donc on peut aujourd'hui utiliser des semblants de vérité, des choses qui sont vraies, mais en réalité, pour parvenir à nos fins. Et le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Il considère que c'est un mensonge d'utiliser ce qui est un petit peu vrai, en quelque sorte, pour s'en sortir. Abraham l'a fait certainement par la peur, parce qu'il avait peur pour sa vie. Mais là où je voulais insister, c'est la conséquence qu'il va y avoir. Dieu va frapper Pharaon. Qu'est-ce que Pharaon avait directement fait de mal pour subir la sanction de Dieu? Il a fait les choses sans connaître la réalité. On lui a présenté une réalité partielle. Et voilà qu'il s'est fait avoir. C'est pour dire, bien aimé, que derrière les mensonges que nous pouvons dire, même si on peut se dire que non, ça ne regarde que moi. Si je mens, c'est moi. Mais ça risque de faire du mal à ton environnement. Ça risque de faire mal aux gens qui t'entourent. Il y a des personnes à qui on avait dit à l'époque, ah, derrière tel magasin, il y a des choses qui sont stockées là-bas. Les gens se servent, tu peux aussi aller te servir. Oh, derrière le magasin, ah oui, il y a des choses qui sont stockées, du lait, il y a plein de choses que tu peux aller prendre. Et les gens vont prendre, au moment où ils vont prendre, la police arrive. Mais quand la police attrape ces gens-là, même si ces gens disent, oui, mais nous, on nous avait dit, on vous avait dit, ça, c'est ce qu'on vous a dit là-bas. Mais là, la loi t'interdit de prendre ça. Allez en prison. Donc, le mensonge de ces gens-là a fait que les autres sont partis en prison. Tu peux mentir aujourd'hui sur ta vie, sur beaucoup de choses, et tu te sauves par ça. Mais le jour où toi, tu ne seras plus, la justice rattrapera tes enfants. De dire, oui, mais tes parents devaient ça. Ils avaient trafiqué ceci, ils avaient trafiqué cela. Aujourd'hui, tu dois payer. Ça se passe comme ça. Même dans le monde, lorsqu'on parle des gens qui font la mafia, aujourd'hui, tu peux escroquer ou ne pas payer ce que tu devais à un mafieux. Mais même si toi, demain, tu disparais ou tu meurs, ils vont aller frapper à la porte de tes enfants, de ta famille, pour dire, voilà, ton parent nous devait ça, il faut payer aujourd'hui. Donc, la tromperie que tu avais faite retombera sur quelqu'un un jour, fera souffrir les autres un jour. Pharaon, par peur, a menti, mais voilà que la sanction de Dieu est tombée sur d'autres personnes qui n'avaient rien à voir. C'est pour nous faire comprendre, bien aimé, que derrière le mensonge, il y a toujours une manipulation, même si elle est indirecte, mais dès l'instant où nous manifestons directement la nature du diable, c'est une façon aussi d'inviter le diable dans cette affaire. Et le diable, lorsqu'il est invité, bien aimé, il ne se prive pas. Dès l'instant où on lui ouvre la porte, c'est-à-dire qu'on entre dans un domaine qui lui appartient, il devient comme un huissier. Le huissier vient chez toi parce que tu dois quelque chose. Donc lui, le huissier, devient le représentant de la personne à qui tu dois. Le huissier ne vient pas chez toi pour rien. Il vient parce qu'il a un droit. Quelquefois, il vient même accompagné de policiers pour montrer clairement qu'il a le droit maintenant de venir se servir chez toi. Et Satan agit comme un huissier. Il vient dès l'instant où tu as quelque chose qui lui appartient. C'est pourquoi Jésus, quand il dit que le diable vient, il est jugé, mais il n'a rien en moi. Le diable vient vers moi. Là, il vient, c'est son heure. Mais chez moi, il ne trouvera rien qui ne lui appartienne. C'est pourquoi Jésus a pu aller jusqu'au bout. Il a dit, qui me convaincra de péché? Le diable vient, mais chez moi, il n'y a rien à lui. Mais dès l'instant, bien-aimé, où nous nous adonnons dans le mensonge, un jour ou l'autre, même si nous nous passons entre les mailles du filet, ce qui est sûr, c'est que notre mensonge risque de faire souffrir d'autres personnes. C'est pourquoi je disais que le mensonge est contradictoire avec l'amour. Parce que lorsqu'on aime, on pense aux autres. Lorsqu'on pose des actes, on se dit, l'acte que je pose, qu'est-ce que ça va faire sur la vie de mes enfants? Qu'est-ce que ça va faire sur la vie de ceux qui m'entourent? Et on se reprend. L'amour doit nous aider à vivre au-dessus du péché. Peut-être qu'on pensait aimer, mais qu'on aimait d'une manière charnelle. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions entrer dans un véritable amour spirituel, c'est-à-dire l'amour qui se soucie d'abord des autres, pas l'amour qui se soucie de nous, dans les actes que nous posons, dans les choix que nous faisons, qu'on tienne compte d'abord des autres, qu'on tienne compte de ceux qui nous entourent et de ceux que nous disons aimer, qu'on calcule par rapport à tout ça. Jésus-Christ ne s'est pas sacrifié à cause de lui-même. La Bible dit qu'il était sur le trône. Quand il dit, Père, glorifie-moi, le Père me dit, mais je t'ai déjà glorifié. Tu as toujours été glorifié. Jésus est venu mourir à cause de nous, par amour pour nous. Si ce n'était que pour lui, il ne serait pas venu. Ça, c'est le véritable témoignage de l'amour. Et lorsque nous aimons, eh bien, même le Seigneur en fait en sorte de vivre comme lui. On fait en sorte de l'imiter parce qu'on a conscience que les conséquences de notre acte, de notre mensonge, de notre vie d'hypocrisie risquent un jour de se répercuter sur beaucoup d'autres personnes. Et l'exemple d'Abraham nous montre clairement que Dieu a jugé parce que le péché reste le péché. Et bien que Pharaon n'était pas responsable de cela, il n'était néanmoins pas dans les dispositions favorables que le Seigneur attendait, sachant que le Seigneur aussi avait traité une alliance avec Abraham. Tous ceux qui te maudiront, moi aussi je les maudirai. Donc le Seigneur avait traité une alliance avec Abraham, donc il a tenu aussi à cette alliance-là. Le psaume 34. Psaume 34, de David. Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui, Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Amen. David va écrire ce psaume de louange, de remerciement, dans lequel il glorifie le Seigneur pour la protection que Dieu lui a accordée. David avait fait beaucoup de guerres, mais surtout, il avait remporté beaucoup de victoires. Et les gens chantaient partout où David passait. Saül a tué les 1000, David a tué ses 10 000. Donc, on élevait David comme un vrai homme de guerre. L'Éternel était avec lui. Et donc, forcément, sa réputation s'est répandue aussi dans tout le territoire. Et voilà qu'un jour, David va se retrouver dans le territoire ennemi. Et les gens vont reconnaître, vont dire, mais notre roi, c'est pas là le serviteur dont les gens chantaient et criaient qu'il a tué, Saül l'a tué, lui l'a tué plus. C'est lui qui est là. Et la Bible nous dit que David va avoir peur. Parce que là, il est en face maintenant de l'un des rois qui était ennemi de David. David va avoir peur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le fou. Il va faire le fou par des gestes. Il va faire sortir la salive. Il va baver sur lui comme un fou. Et quand le roi va faire ça, il va dire, mais pourquoi vous m'apportez un fou? Qu'est-ce que j'ai à faire avec lui, moi? Renvoyez-le. David va mentir. Il va faire semblant, il va se faire passer pour ce qu'il n'était pas. Parce qu'il en a eu peur pour sa vie. Il se disait, là, je vais mourir. Là, je ne suis pas dans les conditions qui me permettent de lutter et de combattre. Là, je vais mourir, donc je n'ai pas le choix que de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Et devant ça, le roi, en quelque sorte, va tomber dans le panneau. Humainement parlant, lorsqu'on voit la scène, on se dit, bon, le roi est tombé dans le panneau, il a cru, il s'est fait passer pour ce qui n'était pas, bon, c'est comme ça. Il y a certains qui essayent. Quand ils commettent des choses atroces, ils veulent se faire passer pour des fous, pour que leur jugement soit qu'il y ait des circonstances atténuantes. Donc il va manipuler un comportement pour qu'on dise, bon, il a fait le mal, mais on tient compte de ça. Donc certains arrivent à faire moins de prison, ou ils arrivent à faire de la prison, mais dans des hôpitaux psychiatriques ou des choses comme ça. Donc on allège parce que la personne, il y en a qui arrivent à faire semblant. Et David a fait ça. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens demeurent dans le mensonge, c'est que plusieurs fois, en trompant les gens, ils sont sortis comme victorieux. Ils ont réussi par le mensonge à être gagnants, à se sortir d'une situation. Ils ont réussi par le mensonge à trouver un emploi là où leur CV ne permettait pas. Ils ont pu accéder dans certaines choses alors que leur vie ne le permettait pas. En faisant semblant, en se faisant passer pour ce qu'ils n'étaient pas, en disant ce qui n'était pas conforme à la vérité. Et ils se croient forts. Les gens qui sont dans le mensonge, ils se croient forts parce que le mensonge devient une arme, devient un moyen très efficace pour parvenir à leur fin. Il y a certaines personnes, même quand ils vont aux urgences, il faut voir ce qu'ils racontent pour être pris rapidement avant les autres. Donc ils vont vraiment se faire dans un état pour se faire passer pour plus malade que celui qui est en train de faire une crise cardiaque pour être reçu rapidement parce qu'il ne veut pas attendre. Et vous allez voir que le mensonge, quelquefois, va pousser les gens à mourir pour des bêtises et des futilités. Mais là, on peut se dire, bon, quand même, David était en train de perdre sa vie, on allait le tuer. Et certains, même lorsqu'ils mentent, ils disent, je n'avais pas le choix. Donc, ils justifient, je n'avais pas le choix. Quand ils disent, je n'avais pas le choix, c'est une manière de dire que si je ne mentais pas là, ah, en tout cas, je n'allais pas m'en sortir. Si je n'avais pas menti, en tout cas, ils n'allaient pas me prendre au travail. Donc, j'ai vraiment été obligé de mentir. Mais en disant que j'ai été obligé, que je n'avais pas le choix, c'est une façon de dire, Dieu ne m'était d'aucune aide à ce moment-là. Donc, il me fallait un autre moyen que Dieu pour m'en sortir. Mais lorsque nous lisons maintenant ce que David est en train de confesser dans ce psaume-là, qui dit qu'il loue l'Éternel, que c'est lui qui délivre, que lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend qu'il était prêt de mourir, mais que Dieu l'a secouru, c'est qu'à un moment donné, David s'est rendu compte qu'il n'a pas eu la vie sauve parce qu'il a menti. Il a eu la vie sauve parce que Dieu l'a sauvé, parce que Dieu l'a voulu. David a compris que ce n'est pas son mensonge qui a fait qu'on le laisse vivre. On l'a laissé vivre parce que Dieu l'a voulu. Bien aimé, à cette époque-là, les rois n'avaient de compte à rendre à personne. On pouvait te tuer pour moins que ça. Regardez comment Jean-Baptiste est mort. En disant la vérité et qui a dérangé une personne, on l'a décapité. À cette époque-là, on pouvait te tuer pour rien. Donc, ce n'est pas parce que David semblait être fou que le roi l'a laissé la vie sauve. Un fou était inutile à la société. On pouvait le tuer pour ne plus qu'il importune les autres. Mais David loue l'Éternel. Donc, il comprend par là que non, ce n'est pas mon mensonge qui m'a sauvé. Ce n'est pas parce que je me suis fait passer pour un fou que je suis vivant aujourd'hui. Je le suis parce que Dieu l'a voulu. Par là, David montre la souveraineté de Dieu. Les gens pensent que parce qu'ils passent entre les mailles du filet, qu'ils sont forts. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. C'est Dieu qui est à l'origine de toutes choses. La Bible nous dit que il n'y a pas un oiseau même qui tombe du ciel sans que Dieu le sache. Il connaît même le nombre de nos cheveux. Dieu connaît toutes choses. Et David s'est humilié. Mais ceux qui mentent, bien-aimés, se retrouvent dans une joie illusoire. C'est-à-dire que le mensonge te donne un semblant de salut. Donc, il te fait vivre dans une victoire en réalité qui est illusoire. Parce que la suite de ta vie te montrera que tu pensais avoir gagné à ce moment-là. Mais tu as perdu. Parce que ton mensonge te retrouve aujourd'hui. Ton mensonge te rattrape aujourd'hui. Il y a des gens, pour obtenir certains gains de cause au travail ou pour obtenir certaines choses, ils avaient menti que non, ma belle-mère est morte. Ah, ma belle-mère est morte, je ne pourrais pas venir au travail pendant tant de jours. Ça, c'est une histoire vraie. Pendant tant de jours, je ne pourrais pas venir, ma belle-mère est morte. Alors qu'il s'est absenté du travail pour aller en vacances avec sa maîtresse. Alors, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, la vraie femme appelle au travail pour dire, mais je n'ai pas de nouvelles de mon mari, vous savez où est-ce qu'il est? Lui, il avait menti et il était fort. Mais voilà que par concours de circonstances, entre guillemets, humainement parlant, mais la réalité, c'est que c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Donc le Seigneur peut amener les choses pour te montrer que non, ton mensonge t'a fait croire que tu étais fort sur le moment. Mais la suite des jours, la suite de la vie, te montrera que ton mensonge ne t'a pas rendu service. Parce qu'à partir de là, les gens ne te feront plus confiance. Les gens ne te feront plus confiance. À partir de là, tu risques de te trouver isolé, d'être connu comme un mythomane. Donc les gens ne voudront même plus t'aider parce qu'on va plus savoir à quel moment tu dis vrai, à quel moment tu es vraiment dans le besoin. Non, on ne voudra plus parce que tu as bâti ta vie sur un mensonge et que quelquefois tu as voulu te faire croire à toi-même que c'était vrai. Mais là, le psaume de David nous montre clairement que le mensonge semble te donner une victoire sur le moment. Mais la réalité, c'est que c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Et David avait compris cela. Bien qu'il s'était fait passer pour un fou, il a dit, mais non, quand le malheureux que c'est l'Éternel qui entend, j'ai crié, il m'a délivré. Donc il a compris qu'il était encore en vie en réalité, c'était par la volonté de Dieu. Bien-aimé, ne pense pas aujourd'hui que la situation dans laquelle tu es, avec tous les mensonges qu'il y a derrière toi, que s'il ne t'est rien arrivé, si tu n'as pas été en quelque sorte sanctionné, si tu n'as pas été découvert, ne te crois pas plus intelligent que les hommes. Ne crois pas que tu as réussi à tromper, que tu es fort, que tu es intelligent. Ne crois pas cela, bien-aimé. C'est simplement le Seigneur qui t'accorde sa bonté. C'est le temps où c'est entre toi et Dieu qu'il faut commencer à régler ça entre toi et Dieu. avant que les choses soient exposées et que ça te mette dans une condition encore plus difficile qu'aujourd'hui. Ne pense pas que parce que tu as caché, que tu es plus intelligent que tes parents. Plus un jour, ça se saura. Un jour, ça se saura. Ne pense pas que tu es plus intelligent parce que tu as réussi à passer entre les mailles de la justice ou bien de l'État. Un jour, ça se saura. Comprends tout simplement que c'est le Seigneur qui t'accorde sa grâce et sa bonté. Non pas que Dieu soutienne ton mensonge, mais le Seigneur veut simplement t'épargner certaines choses qui risquent finalement de t'emmener à te détourner définitivement de lui. Comprends que si tu as obtenu le salut, quels que soient les événements, c'est uniquement par la volonté de Dieu. C'est uniquement par la souveraineté de Dieu. Je ne sais pas, peut-être là où tu as passé le diplôme du mensonge, je ne sais pas dans quelle université, là où c'est réputé, bien aimé, mais ce n'est pas ça qui sauve. C'est vraiment le Seigneur qui nous accorde sa grâce. Alors pendant que nous sommes dans la grâce de Dieu, bien aimé, le jour du salut, c'est aujourd'hui. Le mensonge caractérise vraiment la nature du diable. Il est vrai, nous avons vu l'exemple d'Abraham. Il n'a pas menti parce que ça lui faisait plaisir de mentir. David n'a pas fait ça. Ça n'avait pas fait plaisir de se faire passer pour un fou. Ces gens-là ont eu peur. Ont eu peur pour leur vie. Et il arrive souvent aux hommes de mentir par la peur. Mais la peur est aussi opposée à la foi. Donc le vrai problème, ce n'est pas la peur. Le vrai problème, c'est le manque de foi. Le manque de foi nous emmène à mentir. Parce que en ce moment précis, Dieu semble loin. C'est comme si là, si je dis la vérité, ma vie est foutue. Alors je mens pour m'en sentir. Mais lorsque tu mens ainsi, c'est comme si tu disais, Dieu, tu es trop loin là. Le temps que tu arrives, ma vie est déjà morte. Donc il faut que je trouve une solution. Là, tu mets Dieu de côté tout simplement. Or, la Bible nous dit que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. La foi honore Dieu. La foi rend gloire à Dieu. Le Seigneur prend plaisir à voir des hommes s'humilier, reconnaître qu'il est Dieu et surtout s'attendre à lui. C'est ça que le Seigneur aime. La Bible dit que le Seigneur aime ceux qui les craignent. Le Seigneur aime ceux qui s'attendent à lui. Celui qui s'attend vraiment à l'intervention de Dieu, Dieu prend plaisir à ça. Il voit quelqu'un qui lui fait confiance et Dieu prend plaisir à ça. Mais lorsque la peur est là, la peur du lendemain, de faire des stocks de courses, dès que c'est les soldes, aller acheter vite. C'est comme si en temps hors solde, Dieu ne peut pas pourvoir pour te donner ce que tu as besoin. Donc tu cours vite, tu fais des stocks à la maison, tu bombardes la maison. Et puis les choses des fois restent là jusqu'à que là, tu te rends compte même la date est périmée. La date est périmée. Les packs de jus, les packs de lait, je ne sais pas, promotion directement. Donc il y a des gens qui collectionnent les tickets de promotion, découpage. Donc il y en a partout dans le portefeuille. Il ne faut pas s'auto-oublier. Ah, Leclerc, la carte, Leclerc, tu vas vous faire les comptes. Prends la carte, vite, il y a des points. Il ne faut pas louper. Donc, c'est comme si Dieu ne pouvait pas s'occuper de toi en dehors des soldes. Bien-aimé, ça fait honte à Dieu. Ça fait honte au Seigneur. L'or et l'argent lui appartiennent. Avoir peur du lendemain, s'inquiéter du lendemain, c'est dire que notre Dieu est petit, qu'il ne peut pas pourvoir. Ça fait honte au Seigneur. Et ce manque de foi-là peut nous amener à avoir une vie de mensonge. On ne compte pas sur Dieu. Devant ta famille, tu veux faire comme si tout va bien. Tu es en forme, tout va très bien. Ah, moi, mon Dieu. Tu as honte que les gens sachent que tu es au chômage depuis longtemps. Tu as honte que les gens sachent que tu es malade. Tu caches. Ils vont dire, non, mais toi, tu pries, tu es malade. Toi, tu pries, tu ne travailles pas. Donc, les gens ont honte de leur situation. C'est comme si Dieu s'est trompé. Et bien qu'ils ne mentent pas de leur bouche, mais ils ont une attitude qui veut leur faire croire qu'ils sont dans une vie qui en réalité n'est pas ce qu'il y a dans leur cœur en réalité. Dans leur cœur, ils sont tristes, ils murmurent contre Dieu, ils sont jaloux des bénédictions que les autres ont, ils sont jaloux lorsque les autres travaillent. Et à l'extérieur dans la famille, on va comme si tout va très bien, alors que dans le cœur, ce n'est pas ça. Le manque de foi va nous pousser à mentir. Prions le Seigneur que le Seigneur nous accorde la foi. Il y a d'autres personnes qui mentent parce qu'ils sont insatisfaits de leur vie. Ils ne veulent pas vivre dans le contentement. Ils estiment qu'ils n'ont pas assez. Ils estiment que Dieu n'a pas donné assez. Alors ils veulent se faire passer dans le milieu comme s'ils connaissaient tout, comme si eux, ils avaient tout, comme s'ils avaient des pistons partout. Donc ils s'inventent une vie qui n'est pas la leur parce qu'ils ne sont pas libres, bon...
Moi, je suis qu'au SMIC. Donc, bon, être au SMIC, quand même, bon, au boulot, des fois, bon, quand il faut faire des cotisations pour le cadeau d'un tel, bon, c'est compliqué. Donc, on s'invente une vie qui n'est pas la nôtre parce qu'on refuse de se contenter de l'état dans lequel Dieu nous a laissés. Bien-aimé, le Seigneur ne se trompe pas. Le Seigneur ne se trompe pas. L'apôtre Paul a dit que nous ayons le vêtement et le manger, cela nous suffit. Qu'est-ce qui est important? C'est de vivre normalement et surtout d'être dans le projet du Seigneur. C'est ça qui est important. Ne cherchons pas à envier, bien-aimé. Tu as peut-être envié des personnes, mais aujourd'hui, combien de personnes souffrent avec tout ce qui s'est passé à Nice? Des gens qui étaient dans la gendarmerie haut placés sont morts. Ils ont laissé des enfants avec une maison déjà achetée, avec des richesses. Ils ont toutes ces choses-là, mais ils ne sont pas heureux. Tu es Premier ministre, tu arrives pour des obsèques, tout le monde te siffle. C'est honteux. Tu es président de la République, tu passes, on refuse de te serrer la main. On te tape même sur l'épaule. À quoi ça sert tout ça? Nous allons envier ces personnes-là. Alors que dans peu de temps, tout cela ne sera plus. Dans peu de temps, tout cela ne sera plus. Pourquoi envier ce qui est terrestre, bien-aimé, qui est de courte durée? À quoi ça sert? C'est comme des fois, on voit des fois les enfants se battre pour une sucette. Mais la sucette, là, le temps qu'il va mettre ça dans sa bouche, dans 10 minutes, c'est fini. Tu te disputes pour quelque chose, dans 10 minutes, tu n'en auras plus. À quoi ça sert? Mais la vie, c'est comme ça. C'est quelque chose qui va durer un temps, mais en bout d'un moment, il n'y en aura plus. Donc tu auras été jaloux pour quelque chose qui va disparaître bientôt. Mais c'est inutile, bien-aimé. C'est inutile. Et refuser de vivre avec ce que nous avons va nous amener à avoir une vie de mensonge. De vouloir paraître pour ce que nous ne sommes pas. Je regardais à l'époque un sketch. Ça, c'était un sketch qui est imagé, mais je pense que ça doit refléter certaines réalités de la vie. Il y avait un homme qui désirait une femme, mais la femme était en quelque sorte trop élevée pour elle, puisque lui, il travaillait dans le charbon. Donc, il faisait les livraisons de charbon. Peut-être que certains ont vu ce sketch-là, ça date. Il lui livrait le charbon. Donc quand maintenant il va pour séduire la femme, il dit, bon, moi je travaille à l'ambassade. Il s'habille en costume, tout ça. Il travaille à l'ambassade, il fait comme s'il parle un peu anglais, donc il épate la fille. Quand maintenant il engage, avec la fille, ils se sont bien engagés. Un jour, lui qui est livreur de charbon, va pour livrer le charbon, il tombe nez à nez avec la fille. Oh, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu es livreur de charbon? Il dit, est-ce que moi je te dis que je travaille, j'étais charbon? Oh. Il dit, mais tu m'as dit que tu travailles à l'ambassade, non? Il dit, oui, mais il y a l'ambassade, et puis il y a l'ambassade du charbon. Je suis à l'ambassade du charbon. Donc il s'est fait passer pour ce qu'il n'était pas. Et voilà qu'il se retrouve confondu. Bien-aimé, parce qu'il a voulu s'inventer une vie qui n'était pas la sienne. Et là, il se retrouve démuni, honteux, publiquement. Donc, bien-aimé, et c'est comme ça que beaucoup de gens vont se retrouver en s'inventant une vie qui n'est pas la leur. Dieu ne se trompe pas, bien-aimé. Dieu est bon, Dieu nous aime. Jésus-Christ est mort pour nous. Donc si le Seigneur est mort pour nous, qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, quelle est la chose de la terre que Dieu va nous refuser? Quelle est la chose de la terre que Dieu va nous refuser? Il a donné tout ce qui avait plus de valeur. Une voiture, c'est quoi? Le travail, c'est quoi? Les gens qui ne louent pas le Seigneur ont du travail. Alors pourquoi Dieu priverait ses enfants? C'est qu'il a une raison. Dieu veut s'occuper de nous à sa manière à lui. Et non pas comme nous le voulons, bien-aimés. Et certains mentent aussi uniquement pour se défendre. Voilà. Pour se défendre eux-mêmes, toujours liés au manque de foi. C'est comme si le Seigneur n'était pas capable de nous défendre. On ment, on fait des faux témoignages pour avoir raison dans le débat. On inclut des choses qui sont fausses. C'est comme si Dieu était incapable de nous justifier. Ça, c'est ce qui fait honte au Seigneur. Ayons la foi que Dieu s'occupe de nous. Ayons la foi que Dieu lui-même nous défendra. Matthieu chapitre 7. Matthieu 7, au verset 24, il est écrit. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. La Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tout le monde peut être au départ de la course. Lorsqu'on voit la course, les marathons, tout le monde est au départ. Mais il peut arriver que lorsque tu comptes le nombre de participants à l'arrivée, tu te rends compte que certains ont abandonné en cours, fatigués, mal préparés à la compétition. D'autres ont abandonné parce qu'une blessure musculaire, ils n'ont pas pu achever. Et ce qui compte finalement, c'est tous ceux qui ont franchi la ligne d'arrivée. C'est cela qu'on va compter. Mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Ça veut dire que nous pouvons tous commencer. C'est pourquoi je disais qu'en apparence, bien-aimé, on peut bâtir notre vie, soit sur la vérité, selon le Seigneur. On peut bâtir aussi notre vie sur notre propre vérité, c'est-à-dire sur le mensonge. Parce que la vraie vérité, c'est Jésus en réalité. Donc si on ne bâtit pas sur Jésus, c'est qu'on a bâti sur le mensonge. Et les choses, visiblement, semblent abouties, semblent faites. On peut voir de belles choses qui ont pris forme, la construction est belle. Mais maintenant viendra l'épreuve du temps. Et surtout, l'épreuve du jugement de Dieu. Le Seigneur dit que celui qui bâtit sur le sable, il va bâtir, les murs vont monter. Mais lorsque le vent viendra, lorsque la pluie tombera, lorsque les torrents seront là, on verra quelle maison restera debout. Et là, tous ceux qui avaient bâti sur le mensonge, sur l'illusion, qui faisaient paraître comme beau, qui faisaient paraître comme fort, certaines réalités de la vie viendront clairement montrer que tout ça a été bâti sur un mensonge. Et ça, ça sera le jugement de Dieu. Même si, visiblement, les hommes diront « tout est beau, tout est parfait », un jour, tout sortira. On a vu toute la gloire de Michael Jackson. Mais là, depuis qu'il est mort, beaucoup de choses ne font que sortir. Beaucoup de choses ne font que sortir. Sur les contrats sataniques, sur le fait même qu'il voulait, il avait l'intention d'épouser sa filleule de 12 ans. Donc, beaucoup de choses commencent à sortir maintenant. Donc, ce qui était glorieux pour certaines personnes qui le considéraient comme un dieu, mais toutes ces choses-là sont en train de tomber parce que le temps et la réalité commencent à faire remonter les choses à la surface. Il pouvait éviter tout cela de son vivant, en se repentant, en faisant ce qu'il faut pour se réconcilier avec Dieu. Il ne l'a pas fait. Et toute cette gloire-là, qui était brillante devant les hommes, en réalité est de la poussière. Et tout ça est en train de se démontrer, clairement. Donc, vouloir bâtir loin de la vérité de Dieu, vouloir bâtir sa vie dans l'hypocrisie, dans le mensonge, en voulant tromper les autres, ça peut fonctionner un temps, mais ça ne fonctionnera pas tout le temps. Et surtout, ça ne fonctionnera pas devant Dieu. Nous clôturons avec Apocalypse, chapitre 22. Apocalypse 22, au verset 12. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle. Apocalypse 22, verset 12. « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'époux et l'épouse disent, viens, et que celui qui entende dise, viens, et que celui qui a soif, vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre et de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Seigneur, Jésus vient. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Le Seigneur vient bientôt avec son jugement pour rendre à chacun selon ses œuvres. Et il dit dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Quiconque aime et pratique le mensonge. Donc le Seigneur ne peut pas accepter tout ce qui est lié au mensonge, car le père du mensonge, c'est le diable. Et nous voyons dans les quelques péchés que le Seigneur décrit, notamment les magiciens, les débauchés, que la magie est condamnable par Dieu, mais que dans la magie, on retrouve aussi le mensonge. Parce que la magie, c'est de faire croire aux gens que la réalité spirituelle est tout autre que celle de Dieu. On trompe les gens en faisant croire que ce miracle-là est un miracle de Dieu, alors qu'il ne l'est pas. Le mensonge est inclus dedans. Bien-aimé, la débauche est aussi liée au mensonge. Parce que celui qui est débauché, finalement, il vit de façon, je dirais, animale. De façon animale. Ça veut dire que quelque part, il ment aux gens et il se ment à son propre corps en faisant croire que le corps, Dieu l'a créé pour ça. Et Dieu n'a pas créé le corps pour la débauche. Il a créé le corps pour la vie et pour l'adorer lui. Lorsque une personne, vole, il y a le mensonge dedans. Parce que lorsqu'il vole, il va adopter l'attitude d'un innocent. Il va faire en sorte de ne pas être dévoilé. Donc, même si de sa bouche, il ne parle pas, mais l'attitude qu'il va adopter montre qu'il ment. Parce que le but, c'est de voler. Le but, c'est de tromper. Le but, c'est de manipuler en donnant une apparence pieuse, l'apparence de quelqu'un qui est honnête, alors qu'il a les idées de voler. Donc, et nous allons voir, bien aimé, que dans beaucoup de péchés dont nous pouvons parler, que lorsque nous détaillons, nous allons trouver que le mensonge est toujours associé. Le diable ment dès le commencement. Le mensonge est vraiment un péché qui caractérise le diable et qui, par conséquent, chez les enfants de Dieu, fait tout simplement honte au Seigneur. Ça montre par là que nous ne sommes pas encore positionnés véritablement dans le choix de vie de nous identifier à Jésus et de vivre uniquement pour le Seigneur. Et comme le Seigneur le dit, il vient avec sa rétribution. Mais il dit au verset 14, « Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. » Laver sa robe, c'est l'idée de se purifier, de se laver de toutes ses souillures par rapport au péché. Et aujourd'hui encore, nous sommes dans le temps de la grâce. Dieu ne nous interpelle pas pour nous condamner. Il ne nous interpelle pas pour nous humilier, mais il nous interpelle pour nous sauver. Chacun d'entre nous, nous nous connaissons. Et la particularité du mensonge, c'est que dans l'attitude qu'il peut démontrer, il ne dévoile pas la réalité du cœur. Et c'est ce qui fait, bien aimé, qu'on peut arriver à se tromper les uns les autres. Mais on ne peut pas tromper Dieu. Alors même si pendant toute la vie, on pourra tromper les autres, un jour on sera face au Seigneur. Et comme il dit, il rendra à chacun selon sa rétribution. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Le jour du salut, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, dans la bonté de Dieu, dans la fidélité de Dieu, que nous pouvons encore faire la paix avec lui. Que nous pouvons prendre la décision de ne plus mentir. Je ne parle pas des faiblesses que nous avons bien aimées. Je parle vraiment de ce qui est médité, de ce qui est réfléchi, de ce qui, quelque part, est presque même notre nature. Aujourd'hui, le Seigneur peut nous délivrer de ça. Mais ça reste d'abord un choix personnel. Prenons la décision, bien-aimés, de renoncer au mensonge, de renoncer à l'hypocrisie. N'ayons pas peur du jugement des autres. Quel que soit ce que les gens pensent de toi, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'être vrai devant Dieu, d'être dans la condition que Dieu te veut, de ne pas faire semblant, de ne pas chercher à tromper, à manipuler pour parvenir à tes fins. Si tu as besoin de quelque chose, prie. Et Dieu qui est tout puissant inclinera les cœurs des personnes qui s'occupent de toi, qui s'occupent de ton dossier ou je ne sais pas de quoi tu as besoin. Dieu est tout puissant pour ça. Ne faisons plus honte au Seigneur en mentant et ne cherchons plus, quoi qu'on le cherche peut-être pas, mais faisons en sorte de ne plus ressembler au diable. À Jésus-Christ seul soit la gloire. Amen. Nous allons prier. Je ne vais pas faire un appel particulier. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent aussi se retrouver dans ces situations-là et quelque part ne pas trouver la force. C'est comme si le mensonge devient automatique et que Tu sors même de ta bouche la chose même avant d'avoir réfléchi, c'est déjà sorti. Tu te rends compte après que tu as menti. Mais ce sont des choses qui se répètent. Je ne vais pas faire un appel, mais que le Seigneur nous conduise tout simplement. Voilà. Que celui qui veut s'avancer librement parce qu'il pense que c'est quelque chose qu'il doit dévoiler pour que le diable soit confondu, qu'il le fasse librement. Celui qui sent qu'il doit avoir un responsable après pour prier, qu'il le fasse aussi librement. Que chacun se laisse conduire. Nous allons simplement nous humilier et demander pardon au Seigneur pour le mensonge qu'on a pu manifester, quelle que soit la forme. Éternel Dieu, Papa, nous venons nous humilier devant toi, Seigneur, et te demander pardon, Seigneur Dieu de gloire, parce que nous avons été loin de toi par notre attitude, Seigneur. Nous avons été loin de toi par nos paroles. Nous avons médité le mal, Seigneur Dieu de gloire, et nous avons été dans l'hypocrisie, dans le mensonge, Seigneur. Et ce matin, Seigneur de gloire, tu nous interpelles à laver nos robes, Seigneur de gloire. Tu nous interpelles, Seigneur de gloire, à changer de vie, parce que tu es bon, parce que tu es amour, parce que tu es fidèle. Tu n'es pas venu, Seigneur de gloire, pour nous condamner, mais tu es venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Seigneur, nous voulons entrer dans cette abondante vie, Seigneur. Une vie pleine de joie, de vérité, de transparence, éternel grand Dieu, dans le nom de Jésus. Nous ne voulons pas, Seigneur Dieu de gloire, nous opposer, Seigneur Dieu de gloire, à toi, nous opposer à l'évangile. Parce que nous savons que le plus grand mensonge, Seigneur, c'est de nier que Jésus-Christ est Dieu. C'est de nier que l'évangile est la parole de Dieu. Oh Seigneur, nous voulons, Seigneur de gloire, rectifier nos voies. Nous voulons changer, Seigneur. Mais nous reconnaissons, Seigneur Dieu de gloire, que bien des fois nous sommes dépassés. Bien des fois, Seigneur de gloire, les choses sont au-dessus de nous, éternel grand Dieu, et nous ne trouvons pas toujours la force. Mais Seigneur de gloire, par la foi ce matin, nous voulons saisir la force par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Car tu as dit, Seigneur de gloire, que tout ce que nous te demandons, selon ta volonté, tu nous l'accordes. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Ce matin, nous avons besoin de toi et nous te demandons pardon. Parce qu'il est écrit, Seigneur, que tu ne te lasses pas de pardonner, Seigneur. Merci, Seigneur de gloire, pour ta fidélité. Merci, Seigneur de gloire, pour ton amour, éternel grand Dieu. Car tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de David, Seigneur Dieu de gloire, tu n'as pas changé. Tu les as pardonnés, Seigneur Dieu de gloire. Tu les as délivrés, Seigneur. Et nous aussi, Seigneur Dieu de gloire, nous voulons expérimenter les délivrances éternelles, Dieu, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ton pardon, Seigneur. Merci pour ta compassion. Sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alléluia.